Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 16 janvier, le fiasco judiciaire de l'affaire du petit Grégory, la justice annule la garde à vue de Muriel Boll en 1984. Elle y accusait son beau-frère Bernard Laroche d'avoir kidnappé le petit garçon en sa présence. Mais l'accusation ne disparaît pas tout à fait du dossier. Décryptage à suivre. Dans la série Fiasco judiciaire, un homme condamné il y a 2 ans à 30 ans de prison pour le meurtre particulièrement barbare de sa femme est en liberté à Nîmes, et ce de manière tout à fait légale. Une augmentation de 70 à 90 euros net par mois pour les jeunes profs dès l'année prochaine, annonce de Jean-Michel Blanquer ce matin sur RTL. Quant à la réforme du bac, une douzaine de syndicats menacent de boycotter les premières épreuves de contrôle continu la semaine prochaine. Nous serons avec la représentante du SNES-FSU. 6e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le nombre de manifestants sera crucial pour la suite du mouvement. L'OM, 2e du championnat, s'offre une nouvelle crise entre l'entraîneur, le président et les supporters. Jacques-Henri Hérault porte plainte pour menace de mort. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Tout en douceur avant une belle chute des températures.
À grande douceur cet après-midi, on sera à peu près 7 à 8 degrés au-dessus des normales, jusqu'à 19 degrés cet après-midi au Pays Basque, 15 degrés à Toulouse, 14 degrés à Paris, à La Rochelle et Marseille, 13 degrés à Brest et Nancy et 10 degrés sur le plateau de Langres, avec en plus le soleil qui s'impose sur une bonne partie du pays, excepté près de la Méditerranée où là nous avons un ciel assez nuageux avec un petit peu de pluie. Et puis sur le nord-ouest du pays, là c'est une perturbation donc très active qui va arriver, qui donnera de la pluie cet après-midi sur la Bretagne et de fortes rafales de vent jusqu'à 80 km/h en rafale sur les côtes de la Manche et 110 sur les côtes bretonnes.
La question du jour sur RTL.fr à propos des épreuves de contrôle continu du bac. Soutenez-vous l'appel au boycott des professeurs? Eh bien vous êtes 67% à nous dire que non, il y a 24% de oui. On attend vos appels, vos arguments au 3210 et puis vos réactions en général sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Faites-vous confiance aux médias. C'est pas à vous que je pose la question. Que reprochez-vous aux rédactions, aux journalistes? C'est toujours pas à vous que je pose cette question. Cette confiance reste à des niveaux extrêmement faibles selon le baromètre annuel réalisé par Kantar pour le quotidien La Croix. Seuls 50% des Français jugent que les infos diffusées à la radio sont crédibles. Appelez-nous, suivez-vous quotidiennement l'actualité. Comment vous informez-vous? Appelez-nous sur ce sujet important. Vous êtes professeur, nous vous attendons également au standard de l'émission. Allez-vous boycotter les premières épreuves du contrôle continu? Et puis, les propositions de Jean-Michel Blanquer, 70 et 90 euros net par mois dès l'an prochain pour les profs. Est-ce que c'est suffisant? Et puis la grève, bien sûr, 43e jour de grève. Nous attendons vos commentaires.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
La loi, rien que la loi, jusqu'à l'absurde. Ramon Cortès est libre. Ainsi en a décidé ce matin la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes. Et pourtant, en septembre 2013, il a tué son épouse dans des conditions épouvantables après l'avoir enlevé, séquestré, torturé et enterré son corps dans un bois. Il a été condamné à 30 ans de prison. Mais la lenteur de la justice, Émilie Beaujard, lui permet de retrouver sa liberté.
Oui, des délais trop longs entre son premier procès et celui en appel, pourtant prévu cette année. Ce qui fait qu'il est en détention provisoire depuis plus de 6 ans et cela dépasse ce qu'on appelle le délai raisonnable. Ramon Cortès, 54 ans, va donc sortir de la prison de Perpignan dans la journée. Son avocat, maître Jean-Marc Darrigade.
Il n'est pas tolérable que dans un pays comme le nôtre, une personne doive attendre 7 ans pour être jugée définitivement. Si l'on écrit dans nos textes que la détention doit rester exceptionnelle, est-ce qu'on peut parler encore d'exception quand ça dure 7 ans? C'est une décision courageuse et qui renvoie à la question des moyens donnés à la justice.
L'avocat et les magistrats ont bien sûr conscience que cette remise en liberté va choquer. L'avocat général a même ajouté « Les juridictions sont surchargées, elles n'ont plus les moyens de fonctionner. C'est ainsi et c'est triste. » C'est donc libre que Ramon Cortès viendra à son procès en appel prévu en avril prochain, rejugé pour le meurtre de son ex-femme tuée d'une balle dans la tête après des semaines de violence et de harcèlement. D'ici là, il est soumis à un contrôle judiciaire très strict. Il ne peut pas sortir de sa commune de résidence et devra pointer 2 fois par jour à la gendarmerie. gendarmerie.
Émilie Beaujard, une accusation qui ne tient plus qu'à un fil. Près de 36 ans après la mort du petit Grégory, cet enfant retrouvé ligoté dans la Vologne, la cour d'appel de Paris vient d'annuler la garde à vue de Muriel Boll en 1984. Elle y accusait formellement son beau-frère Bernard Laroche d'avoir kidnappé le petit garçon en sa présence. Elle s'était ensuite rétractée. Son avocat Maître Tessonnière est satisfait.
On n'ennuiera plus Muriel dans un dossier dans lequel elle n'a strictement rien à voir. Et les quelques déclarations de Muriel qui subsistent, de toute façon, n'ont pas beaucoup d'importance dans la mesure où plus personne ne soutient que ce qu'elle a déclaré à ce moment-là correspond à la réalité. Les Villemain présentent actuellement un scénario complètement différent. L'accusation elle-même, depuis des années, a abandonné la thèse correspondant aux déclarations de Muriel. Bien sûr qu'elle est une des victimes de ce dossier. Elle est persécutée depuis 35 ans maintenant, sans interruption, avec un point culminant qui se situe 35 ans après l'assassinat de Grégory. Donc elle souhaiterait encore une fois qu'on la laisse tranquille.
Maître Tessonnière au micro RTL d'Alice Moreno. Alors, c'est une décision logique puisque cette garde à vue avait déjà été déclarée anticonstitutionnelle. Mais dans le dossier Cindy Hubert, il reste quand même certaines accusations de Muriel Boll.
Oui, la justice a décidé de retirer une seule pièce du puzzle, toute son audition devant les gendarmes. Mais à l'époque, Muriel Boll commence à parler avant même que sa garde à vue n'ait formellement commencé. Elle désigne Bernard Laroche et elle le répète ensuite devant le juge Lambert. Ces moments avant et après vont donc rester au dossier, mais la justice va devoir tout de même se lancer dans un examen chirurgical, purger ce dossier montagne de toutes les pièces qui font référence à cette garde à vue. La liste n'a pas encore été détaillée, elle sera communiquée rapidement aux avocats, mais plusieurs dizaines de procès-verbaux pourraient être ce qu'on appelle cancellés, supprimés. Le juge d'instruction qui enquête toujours sur cette affaire à Dijon va donc devoir faire comme si ces pièces n'avaient jamais existé.
Un mineur en garde à vue à Lyon dans le cadre de l'enquête sur le décès d'un policier, le gardien de la paix avait été fauché par un fourgon lors d'une intervention lundi à Bron. Par ailleurs, 3 gendarmes ont été blessés la nuit dernière, 1 grièvement à Avranches dans la Manche et 2 à Tannes dans le Haut-Rhin lors d'un scénario similaire. À chaque fois, ils tentaient de stopper des véhicules. Bernard Prenat, jugé pour agression sexuelle, dit avoir été abusé lorsqu'il était enfant. Il a expliqué ce matin en détail devant le tribunal correctionnel de Lyon avoir subi des attouchements de la part d'un sacristain, d'un moniteur de colonie, puis d'enseignants au séminaire. Face au scepticisme de l'avocat de l'une des victimes, il s'est défendu. « Je n'ai rien inventé, on n'est pas obligé de me croire. » Dans un instant, une hausse des salaires pour les profs.
RTL Midi.
Citroën.fr.
RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Des hausses de salaire pour les profs en contrepartie de la réforme des retraites qui va les pénaliser. L'objectif, c'est 10 milliards d'euros d'ici à 2037 pour 800 000 enseignants. Mais pour la première fois ce matin sur RTL, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé un chiffre concret pour l'année prochaine, dès l'année prochaine, pour les profs les plus jeunes.
Les augmentations que l'on va faire, ça peut se traduire dès l'année prochaine, dès 2021, donc c'est très concret, par des hausses très substantielles pour ces jeunes professeurs. Un professeur qui commence aujourd'hui, il est à 1600 euros mensuels environ, c'est pas assez, comme vu le niveau d'études. Et ce que nous voulons, dès l'année prochaine, c'est que ce soit une augmentation qui puisse être entre 70 à 90 euros net par mois, en plus. Quelque chose de très significatif, d'autant plus que ça se continuera comme augmentation au cours des années suivantes. Il est bon de tout mettre sur la table pour que les professeurs, tout simplement, soient heureux dans leur travail. Donc je suis le premier avocat des professeurs.
70 à 90 euros net par mois, Jean-Michel Blanquer avec Alba Ventura. Un peu de câlinothérapie alors qu'une douzaine de syndicats d'enseignants exigent le report des contrôles continus du bac nouvelle formule qui doit commencer lundi. C'est ce qu'on appelle dans le jargon les E3C, épreuves communes de contrôle continu. Expliquez-nous, Marie Guerrier, comment ça va fonctionner.
Alors, chaque lycée de France doit organiser ses E3C entre le 20 janvier, lundi, et le 28 février. Ça concerne tous les élèves de première. Ils auront un devoir de 2 heures d'histoire-géographie, des épreuves d'1 heure pour les 2 langues vivantes et en première technologique, il y aura aussi des maths. Chacune de ces 4 épreuves compte pour 1,67% dans la note finale du bac. Les sujets sont choisis par les profs dans une banque de données nationale, les copies sont anonymisées et corrigées par des profs qui ne sont pas ceux des élèves. Les rectorats mettent en place une commission d'harmonisation des notes. Une deuxième session de 3C sera organisée en mai. Rebelote, histoire-géo, langue, maths pour les premières techno. Et on ajoute alors une épreuve d'enseignement scientifique, c'est une nouvelle matière depuis cette année en filière générale, et une épreuve de spécialité qui portera sur la spécialité que les élèves délaisseront en fin de première parce qu'ils n'en gardent que 2 en terminale. En terminale, justement, il y aura une troisième et dernière série de 3C, avec toujours les mêmes matières. Et en tout, ces trois sessions réparties sur 2 ans représentent 30% de la note du bac.
Voilà, c'est plus clair grâce à vous. Merci Marie. Invité d'RTL Midi, Frédéric Rollet du SNES FSU, bonjour.
Bonjour.
D'abord un mot sur la hausse des salaires, 70 à 90 euros net par mois pour les jeunes profs. Vous saluez cette avancée ?
Écoutez, d'abord, le ministre parle de 1 600 euros mensuels pour un jeune enseignant, c'est 1 450 quand on débute, ce qui avec un master à 5 ans d'études plus un concours difficile est effectivement très très peu. Donc il s'agit là d'une petite augmentation qui évidemment est souhaitable, mais qui ne pourrait absolument pas de toute façon compenser la baisse du taux des pensions qui serait engendrée par la future réforme des retraites que nous combattons.
Oui, mais c'est un début et c'est un chiffrage, c'est le premier chiffrage.
Alors c'est le premier chiffrage et d'ailleurs on vient de l'apprendre, ce qui pose un petit problème de méthode aussi par rapport aux discussions à l'éducation nationale où on reste dans le flou le plus artistique, puisque si vous regardez sur l'ensemble de la revalorisation qui doit s'éterniser jusqu'en 2037, oui. Les chiffres les plus fantaisistes circulent. 10 milliards d'un côté, 100 milliards de l'autre, ce qui évidemment ne représente absolument pas la même
échelle
chose.
De valeur.
Oui, non, exactement. Oui.
Bon, venons-en à ce bac nouvelle formule. Vous menacez de boycotter ces épreuves de contrôle continu alors que chacune ne représente que 1,7% de la note finale. Est-ce que c'est pas un peu une tempête dans un verre d'eau ?
Alors, c'est si vous regardez ce que disent les élèves, beaucoup d'entre eux, même si on leur explique effectivement la faiblesse du coefficient, disent oui, mais on est stressé parce que on nous a demandé pendant les vacances de Noël de réviser pour une épreuve qui n'est pas celle du contrôle continu comme d'habitude où on peut se rattraper quand on a raté dans le cadre d'un contrôle continu une évaluation, on peut en se rattraper sur une autre. Donc il y a une pression qui est mise sur les élèves. On a une très grande complexité d'organisation de ces E3C qui fait que dans les établissements, alors le ministère est obligé de dire on n'est plus obligé de corriger de façon dématérialisée parce que les scans qui devaient permettre donc la numérisation des copies ne sont pas forcément adaptés, notamment pour les croquis en couleur. On sait qu'il y a des sujets qui ont fuité. Enfin, vraiment, c'est vraiment pourquoi faire compliqué.
Simple quand on peut faire compliqué. C'est
simple quand on veut faire compliqué, oui, c'est ça, exactement. Quoi.
Mais vous parliez de stress. Mais les élèves qui doivent plancher la semaine prochaine, ils stressent aussi parce qu'ils sont pas sûrs qu'ils vont bien pouvoir le faire puisque vous appelez au boycott.
Non, c'est pas seulement ça, parce que dès le mois de novembre, j'ai des collègues qui avaient dit à leurs élèves, vous savez, pendant les vacances de Noël, vous allez devoir réviser, pendant les vacances de Pâques, vous allez devoir réviser, et que on sait que bon, le temps des vacances, c'est aussi un moment où on se relâche un peu. Donc il y a un stress qui est mis sur ces élèves parce qu'ils se disent aussi, est-ce que la notation dans mon établissement va être de même nature que celle dans l'établissement voisin ? Donc est-ce que mon lycée ne va pas être disqualifié ensuite dans la course à Parcoursup par rapport à un autre ? Ils sont très conscient aussi de ces dimensions de rupture d'égalité entre les élèves et les établissements.
Marie Guerrier, une question pour vous, Frédéric Rollet.
Il y a une commission d'harmonisation qui va devoir regarder un peu toutes les notes pour garantir une équité entre élèves. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, en principe, dans toutes les épreuves nationales, il y a des commissions d'harmonisation. Seulement là, les commissions d'harmonisation, elles vont devoir statuer sur toute des sujets très différents, puisque chaque établissement a son propre sujet. Donc, on va juste être dans l'idée de réguler un peu les choses. On sait qu'il y a des endroits où on a déjà demandé un petit peu, d'ailleurs, de bricoler un peu les barèmes, parce que les sujets étaient trop difficiles dans certaines disciplines, notamment en mathématiques.
Vous avez la preuve de ça, Frédéric Rollet, qu'on leur a demandé, noir sur blanc, de bricoler les barèmes.
Pas partout, mais on sait qu'il y a des endroits où ça s'est fait. On sait aussi qu'il y a des endroits, notamment dans une académie comme Orléans-Tours, où il y a eu des conseils donnés sur ce qu'il fallait que les élèves révisent.
Donc pour vous, il y a rupture d'égalité, en fait, c'est ça ?
Mais oui, il y a très clairement rupture d'égalité. Bon, on n'est plus dans un cadre national.
Jean-Michel Blanquer, il vous reproche de faire de la politique.
Le ministre qui est lettré, c'est ce que veut dire le mot politique, c'est la cité, c'est le fait de s'exprimer sur toute une série de sujets, de voir ce qu'on dit en tant que citoyen. Là, les profs s'expriment en tant que professionnels, en tant que citoyens. Ils sont en guerre contre la réforme des retraites, mais comme j'allais dire, quasiment l'ensemble du pays et une majorité de l'opinion publique, parce que c'est derrière, c'est un projet de société individualisée. Mais ils disent aussi que là, on les met devant un métier empêché, on le met devant des problèmes professionnels très lourds.
Frédéric Rollet, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire le coup de l'an dernier lorsque les enseignants avaient refusé de rendre les copies du bac ?
Ben, je dirais que le problème, c'est que le ministre n'a pas tiré de leçon de ce qui s'est passé l'an dernier. Ça a été dit quand même très très largement que la gestion de la séquence bac l'année dernière avait été assez désastreuse. Le rôle d'une organisation syndicale, et j'allais dire que là, vous disiez des organisations, c'est l'ensemble des organisations syndicales, et y compris les chefs d'établissement. Et la FCPE, la première fédération de parents d'élèves, qui l'avait averti. Qui dit, monsieur le ministre, on ne peut pas tenir cette première session des E3C. Il y a une lettre qui a été envoyée bien en amont. Le ministre ne tient jamais compte des signaux d'alerte qui lui sont donnés. Et quand on arrive en plein dans la crise, là, il commence à expliquer que c'est la faute des personnels. Non, c'est la responsabilité, il la porte.
Merci beaucoup, merci Frédéric Rollet du SNES FSU d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée. Et il y a quelques enseignants aussi dans les cortèges aujourd'hui pour cette sixième journée de mobilisation interprofessionnelle. Le mouvement s'effiloche clairement depuis le début de la semaine et le retrait de l'âge pivot de la réforme des retraites. Le chiffre de la mobilisation sera donc crucial ce soir pour la suite. Dans le cortège à Bordeaux ce matin, Philippe Demaria a rencontré un salarié du privé, Denis Boutineau, électricien, syndiqué CGT.
Alors on a participé à toutes les manifs parce que la pénibilité dans nos métiers doit être reconnue. Nos compagnons sont généralement licenciés dès 58 ans parce qu'ils sont inaptes au travail du fait de la dureté de nos métiers. Il faut savoir que dans le BTP, la pénibilité, ça rime aussi avec dangerosité sur nos métiers. On a un mort par jour travaillé, on a des salariés qui sont très abîmés. Vouloir allonger l'âge de la retraite, mettre une retraite, un âge pivot, etc. Tout ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui, c'est pousser au crime dans nos métiers. C'est intolérable, c'est pour ça qu'on est, nous, la construction, vent debout contre cette réforme.
Un propos recueilli par Philippe Demaria à Paris. Le cortège partira à 13h30 tout à l'heure de Montparnasse, direction la place d'Italie. Dans un instant, on regarde dans le bas de laine des Français, le livret A.
RTL Midi. RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Le livret A au plus bas, son rendement tombera dès le mois prochain à 0,5%. C'est tout simplement du jamais vu depuis sa création il y a 202 ans. Le placement préféré des Français sera donc peu rémunérateur, mais il reste un Martial You, un incontournable bas de laine.
Et oui, on compte 55 millions de livrets A, LDD, livret bleu, donc pratiquement chaque Français en a un. C'est vraiment le coffre-fort des Français. Hein. Il est simple à utiliser, pas d'un pot disponible à tout moment. Un des phénomènes observés d'ailleurs ces derniers mois, c'est qu'on a battu des records en matière d'argent placé sur ce livret à 15 milliards en 2019. Et pour les spécialistes de l'épargne, l'explication elle est toute simple. Les 17 milliards de mesures de pouvoir d'achat décidées début 2019 pour répondre aux gilets jaunes se sont retrouvées en partie sur les livrets. C'est de l'épargne de précaution. Je vous rappelle qu'une enquête Odoxa Harmonie Mutuelle montrait il y a quelques mois que la moitié des Français met moins de 50 euros par mois sur son livret A. On y met les quelques sous qu'on a en plus en prévision des mauvais jours. Et ça ne devrait pas changer avec la baisse du taux de rémunération, parce que passer de 0,75 à 0,5%, il faut le dire aussi, ça va représenter une douzaine d'euros en moins en moyenne par an. L'idée du gouvernement, c'est quand même de nous pousser et de pousser les Français à mettre leur argent sur d'autres comptes, d'autres placements, comme le livret d'épargne populaire par exemple. Et le gouvernement va d'ailleurs simplifier l'accès à ce placement qui ne séduit pas finalement suffisamment de monde actuellement.
Merci Martial. Une offre de reprise pour Remade, cette entreprise qui reconditionne des smartphones. Le tribunal de commerce de Rouen valide l'offre de la société britannique Forcewave Technology, mais cela implique la suppression de 211 emplois sur 328. Cette fois, trop c'est trop, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, porte plainte après une menace de mort sur les réseaux sociaux qui mentionnait son adresse personnelle. Certains supporters de l'OM ont relayé de manière très violente les critiques de l'entraîneur André Villas-Boas envers le président. Hugo Hamelin, sale ambiance, et pourtant sportivement, le club se porte bien.
Oui, c'est vrai, mais il va mal financièrement et c'est cette situation pécuniaire qui a entraîné indirectement ces menaces de mort. La genèse de tout ça se trouve dans la conférence de presse de l'entraîneur portugais de l'OM hier après-midi, qui dénonce des objectifs financiers plus importants que les objectifs sportifs cette saison. Ça veut dire que la priorité de l'OM désormais, c'est de vendre des joueurs, et ça André Villas-Boas ne le veut pas du tout, et les supporters non plus. Forcément, ils étaient sur un petit nuage depuis plusieurs semaines. Là, ils redescendent sur terre et les demandes de démission du président Hérault se sont multipliées sur les réseaux sociaux hier soir. Jusqu'à ces impardonnables menaces de mort, mentionnant l'adresse directe du dirigeant. Il est toujours en froid d'ailleurs avec ses supporters et il s'était fait très discret, Jacques-Henri Hérault, depuis le début de la saison.
Hugo Hamelin, la pluie enfin en Australie, sur le sud-est du continent, là où les brasiers sont les plus importants. De quoi soulager le travail des pompiers. Et ça détend aussi les organisateurs de l'Open de tennis à Melbourne, puisque les orages ont dissipé les fumées toxiques. Et on retrouve Pascal Pro, avec qui vous allez dialoguer dans quelques minutes.
Et je suis un peu en colère. J'entendais Hugo Hamelin, oui. Il dit les supporters. Ce sont des minorités actives. Ce sont quelques supporters. C'est toujours la même chose. C'est les réseaux sociaux. C'est quelques membres des associations, mais qui aujourd'hui ont un pouvoir démesuré avec ces réseaux sociaux. Les supporters de l'OM, ils sont sans doute plus derrière le président Hérault qui a de bons résultats et derrière l'équipe. Mais c'est vrai que nos sociétés aujourd'hui sont face à des minorités actives qui prennent le pouvoir dans tous les domaines, le foot comme ailleurs, et qui effectivement ont un fort pouvoir de nuisance. À part ça, on va parler des médias justement. Est-ce que vous avez confiance envers les médias? Et Laurent Tessier me disait que c'était le sujet numéro un. Vraiment au standard. Que reprochez-vous aux rédactions, aux journalistes? Cette confiance reste à des niveaux extrêmement bas. On pourra évoquer évidemment la grève à la RATP, c'est le 43e jour, et les mobilisations de grève. Les professeurs qui vont être augmentés, 70 à 90 euros. Est-ce que c'est suffisant? Le bac qui va commencer dans sa nouvelle formule. Donc beaucoup de sujets, même si vous voulez réagir à ce que j'ai dit sur l'Olympique de Marseille, pourquoi pas.
À tout de suite. La météo, Patricia Charbonnier, on en profite, c'est la plus belle journée de la semaine.
La plus belle, la plus ensoleillée, la plus douce. Les températures sont 7 à 8 degrés au-dessus des normales cet après-midi. On attend jusqu'à 19 degrés cet après-midi sur la côte basque, 16 degrés à Clermont-Ferrand, 15 degrés à Toulouse, 14 à Paris, à La Rochelle et Marseille, 13 degrés à Quimper et Nancy, 12 degrés à Lille et Grenoble et 10 degrés pour la température la plus basse sur le plateau de Langres. Côté ciel, c'est plutôt très ensoleillé cet après-midi, sauf près de la Méditerranée. Dans le flux de sud, on a pas mal de nuages avec un petit peu de pluie. Et puis du côté de la Manche et surtout par la Bretagne, là, c'est une nouvelle perturbation qui arrive, qui va donner de la pluie cet après-midi sur la Bretagne et la pointe du Cotentin, et elle s'accompagne de fortes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h en pointe sur les côtes du Finistère à partir de cet après-midi.
Et demain, ça se gâte, effectivement.
Voilà, la perturbation, elle va progresser vers l'est en donnant des pluies assez marquées. Bonne nouvelle, on attend le retour de la neige en montagne à partir de 1000 mètres, notamment sur les Alpes du Nord. Cette perturbation donc s'accompagne de fortes rafales de vent, et ensuite à l'arrière, on va passer en ciel de traîne demain après-midi, donc alternance d'averses et d'éclaircies, de quelques coups de tonnerre. Ça restera encore très très venté sur les côtes de la Manche et sur la côte atlantique. Les températures baissent un petit peu, mais ce n'est rien encore. Moins 3 à 11 degrés demain matin, donc localement quelques gelées. Moins 3 degrés à Grenoble, 6 à Montauban, 8 à Paris, 11 à La Rochelle, 7 à 16 dans l'après-midi, avec 8 degrés à Brest, 10 degrés à Lyon, 11 à Paris, 16 à Bastia. Et donc c'est à partir de ce week-end qu'on attend.
C'est à partir de samedi la dégringolade.
Voilà, retour à la normale, en fait, surtout à partir de dimanche. Et on va même repasser en dessous des normales de saison entre dimanche et mercredi, vu que ce sera des conditions météo anticycloniques. Donc retour des gelées quasiment partout, avec un froid sec continental. Ça va piquer un petit peu parce qu'on va avoir le vent de nord-est.
Vive le yo-yo, merci Patricia. Dans un instant, Olivier Bois.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est pile 13h.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous Olivier Bois, bonjour.
Bonjour Christelle. Et d'abord le procès du père Prénat à Lyon. Depuis mardi, l'homme de 74 ans est jugé pour des agressions sexuelles sur une dizaine d'enfants à l'époque où il était aumônier scout. Depuis 3 jours, on a entendu les victimes raconter comment, enfants, ils défilaient littéralement dans le bureau de l'ancien curé qui les agressait. Bernard Prénat s'est excusé tout en donnant l'impression parfois de tenter de minimiser les faits. Et hier, pour la première fois, il a expliqué avoir lui-même été abusé quand il était petit. Face au scepticisme, il a dû s'expliquer ce matin là-dessus, Frédéric Perruche.
À la barre, sans émotion apparente, Bernard Prénat raconte une première agression à l'âge de 10 ans par un sacristain qui a appuyé sur son sexe. Puis il évoque à peu près au même âge un moniteur de colonie de vacances qui lui caressait les cuisses après la douche. Des faits qui se sont poursuivis au petit séminaire, au collège, jusqu'en quatrième. Là, c'est un prêtre, détaille-t-il, qui régulièrement baissait son pantalon et lavait son sexe avec un mouchoir ou un gant de toilette. Des révélations bien tardives, invérifiables, lui lance la procureure. Tout est vrai, répond Prénat, je n'ai rien inventé, mais ce n'est pas une excuse. L'expert psychiatre vient conforter sa version. Tous les agresseurs sexuels ont été eux-mêmes agressés.
Merci Frédéric Perruche, correspondant RTL à Lyon. Le réalisateur Christophe Ruggia va être présenté au juge en vue d'une possible mise en examen. Il est accusé par Adèle Haenel d'agression sexuelle quand elle avait entre 12 et 15 ans. Confronté hier soir en garde à vue à l'actrice, il a continué à nier les faits. Une décision judiciaire qui choque à Nîmes. Un homme meurtrier de sa femme, condamné à 30 ans de prison, a été remis en liberté. La justice n'ayant pas eu jusque-là les moyens d'organiser son procès en appel, il a dépassé le délai légal de détention provisoire. Encore un rebondissement dans l'enquête sur la mort du petit Grégory. La garde à vue du témoin principal Muriel Boll est annulée. C'est la garde à vue où elle dénonçait son beau-frère Bernard Laroche comme ayant enlevé le petit garçon. Le dossier ne tombe pas pour autant. Ces accusations, elle les avait aussi répétées au juge. Et pour le coup, cette partie-là reste valable. 43e jour de grève. Le trafic est quasi normal sur les TGV et c'est bien mieux sur les Transiliens ou dans le métro. L'intersyndical espère, ceci dit, un second souffle avec cette nouvelle journée de manifestation aujourd'hui, la 6e depuis le début du mouvement. On verra si les cortèges sont fournis. En tout cas, le taux de grévistes remonte légèrement aujourd'hui à la SNCF. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, négocie en ce moment avec les syndicats d'enseignants de futures augmentations de salaire. Et il a annoncé ce matin sur RTL que les jeunes profs pourraient être concernés dès l'année prochaine avec une augmentation nette potentielle entre 70 et 90 euros par mois. À l'étranger, la pluie tant attendue en Australie est bien là, sur les régions les plus touchées par l'incendie. De quoi nourrir un peu d'espoir et un peu de soulagement également pour les organisateurs de l'Open d'Australie qui voient les fumées et les particules se dissiper légèrement au-dessus de Melbourne. Il est 13h, passé de 3 minutes. Dans un instant, Pascal Praud avec vous, les auditeurs au 3210.
3210. 3210. Prenez la parole sur RTL.